Radio Kapi.
Oh, Kapi.
La présentation du journal Billy Van Lutumba.
Nous parlons tout de suite de cette montée des tensions et violences dans le territoire de Lubero. Le M23 ne cesse d'attaquer les positions de l'armée régulière. La localité d'Alimbongo est sous contrôle rebelle. Pendant ce temps, des habitants trouvent refuge ailleurs. Coup de gueule dans ce journal des habitants de quartier Punda et Bangu dans la commune de Ngaliema. Un ravin menace à chaque pluie de couper en deux la route reliant le quartier d'Elvo et la commune de Selembao. Ils ont barricadé la route Matadi pour faire entendre leur voix. Yolande Company, coordonnatrice provinciale du FSS, Fonds de solidarité de santé, est invitée de ce journal. Nous allons parler mobilisation des financements dans le cadre de la couverture santé universelle dans le Kasaï oriental. Nous vous parlons de tous ces faits d'actualité et bien d'autres tout de suite. Bienvenue, excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a lancé ce mardi les activités de la nouvelle compagnie d'aviation Air Congo destinée à renforcer le transport aérien en RDC. Cette cérémonie a eu lieu à l'aéroport international de Njili à Kinshasa. Selon des sources proches de la présidence de la République, cette compagnie nationale va démarrer avec deux appareils sur les huit prévus. Des explications de Blaise Ndongala rendues par Ronelly Timbonera.
Des sources dignes de foi renseignent que la compagnie Air Congo est le fruit du partenariat entre la RDC et la compagnie aérienne Ethiopian Airlines. Cette société d'aviation a réceptionné dimanche dernier à l'aéroport international d'Njili son deuxième avion en Boeing de marque 737-800 en provenance d'Addis Abeba en Éthiopie. À cette occasion, le directeur général d'Air Congo a affirmé avoir réceptionné cet avion avec chaleur avant d'assurer que la réception des avions va continuer jusqu'à atteindre 8 appareils. Le premier avion de la nouvelle compagnie aérienne Air Congo, en Boeing 737-800, avait atterri à Kinshasa samedi 30 novembre dernier. À cette occasion, le vice-premier ministre et ministre des Transports Jean-Pierre Bemba précise que les parts sociales de deux actionnaires, la RDC et le groupe Ethiopian Airlines, sont respectivement de 51% et 49%, pour un montant total de 40 millions de dollars. Ce partenariat vise à doter la RDC d'une compagnie aérienne à même de répondre aux besoins des transports aériens domestiques et internationaux, tout en bénéficiant de l'expertise d'Ethiopian Airlines, l'un des leaders du secteur en Afrique.
Premier titre de cette édition de journal. Dans le Nord Kivu, la situation demeure tendue dans le sud de Lubero après l'occupation lundi d'Alimbongo par les rebelles du M23. Cette localité constituait l'un des verrous stratégiques des FARDC pour bloquer la progression des rebelles vers Lubero centre situé à 50 km chef-lieu du territoire. L'avancée du M23 pousse des milliers d'habitants à fuir la zone. Les détails avec Martial Papimoukeba.
En ce mardi, les M23 occupent les localités de Matembe, Butorovia, Mambasa et Alimbongo. Ces localités, situées sur la route nationale numéro D qui mène à Lubero centre, sont tombées sous l'occupation des rebelles après des jours de violents affrontements avec les FARDC. L'armée conserve le contrôle des localités de Mbingi et Mbwavinywa et partage celui de Luofu avec les rebelles. Les forces loyalistes tiennent également leur position à Kitsombiro où elles se sont repliés lundi soir après avoir abandonné Alimbongo. La situation reste tendue dans la zone de combat où des sources locales rapportent des actes de pillage dans les habitations abandonnées. De nombreux habitants, en majorité des femmes et des enfants, fuient la région à pied, parcourant des dizaines de kilomètres avec des bagages sur la tête pour rejoindre Lubero centre. Les FARDC et les M23 continuent de renforcer leur position, faisant craindre une escalade de la violence. Un risque de détérioration de la situation humanitaire plane sur les sites de Lubero où les conditions étaient déjà critiques. Béni, Martial Papimoukeba, Radio Okapi.
Situation sécuritaire aussi tendue ce mardi dans plusieurs villages du territoire de Walikale, c'est notamment dans les groupements Ikobo et Kisimba. Ces entités sont depuis trois jours le théâtre des violents combats opposant les rebelles du M23 à l'armée congolaise soutenue par les combattants Wazalendo. Jusque dans la matinée de ce mardi, des tirs étaient encore entendus autour de Bouléoussa. Pour des sources civiles locales, des mortiers largués par les rebelles depuis Lusoga, au nord de Bwito, territoire de Rutshuru, Kimaka et Miriki, au sud du territoire de Lubero, sont tombés dans la soirée hier lundi sur Bouléoussa, causant la mort d'au moins deux autres personnes. L'actualité nous amène à présent dans la province de la Tchopo. Ouverture ce mardi à Kisangani du Forum pour la paix, la réconciliation et le développement de la province. La cérémonie afférente présidée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur s'est déroulée dans l'amphithéâtre de l'université de Kisangani. Plusieurs personnalités aussi bien civiles, politiques, militaires que religieuses y prennent part. Une occasion pour Paulin Lendongolia, gouverneur de province, et Jacquemain Chabani, ministre de l'Intérieur, d'appeler les participants à un dialogue franc et sincère devant aboutir à une paix durable, gage de tout développement. Un reportage de Jacques Moukonkole.
Les conflits qui minent la province de la Tchopo sont multiples. Ils sont d'ordre administratif, foncier et liés au pouvoir coutumier. D'autres sont relatifs à l'exploitation des ressources naturelles. Les conséquences qu'ils engendrent sont incalculables sur le plan socio-économique. Jacquemain Chabani met en garde les acteurs intellectuels de ces conflits.
Tournons ensemble cette page lugubre de notre histoire commune. Leaders locaux, leaders politiques, coutumiers, religieux, membres de la société civile. L'heure est à la paix, l'heure est à la cohésion, l'heure est arrivée au vivre ensemble et au développement de la Tchopo.
Les participants se félicitent de son organisation. Toutefois, ils souhaitent que les recommandations issues de ces travaux puissent aboutir véritablement à la paix et à la réconciliation voulue par Toussaint.
J'ai comme l'impression que tous les acteurs déjà identifiés, les intérêts déjà connus, les enjeux déjà connus, les conséquences déjà observées, nous entendons une solution durable maintenant.
Afin de faire prendre conscience des participants de leurs responsabilités pour une paix sincère dans les territoires, dans les 7 territoires de la Tchopo et la ville de Kisangani, quelques victimes des atrocités leur ont été présentées. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
À Ituri, à présent, le gouverneur plaide pour le renforcement de l'effectif des contingents de la MONUSCO à Ituri en vue de remédier efficacement aux problèmes sécuritaires, notamment dans le territoire de Djougou. Général Johnny Louboyan-Keshama l'a dit lundi à Bounia lors de l'échange dans son cabinet avec la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU chargée de la protection et des opérations, Viviane Depeyre. Sadiki Aboubakar pour d'autres détails.
La représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU chargée de la protection et des opérations a rencontré lundi à Bounia le comité provincial de sécurité. Pendant plus ou moins une heure d'échange, Viviane Depeyre et ses partenaires du gouvernement provincial ont évalué la situation sécuritaire, mais aussi ils ont réfléchi sur des mécanismes communs pour relever les défis. Viviane Depeyre.
Il y a encore beaucoup de défis, mais il y a aussi des progrès et nous sommes là pour appuyer avec nos militaires, avec nos moyens logistiques, aussi le dialogue.
Par rapport à la résurgence des tueries dans le territoire des Djougou ces dernières semaines, le gouverneur de province, le général Louboyan Keshama, n'exclut pas l'apport de la MONUSCO en termes de renforcement de ses effectifs militaires.
Je pense que dans les 2 semaines qui viennent, on aura déjà fait un bon redéploiement, une bonne réarticulation de nos forces ensemble avec la MONUSCO. Nous avons demandé aussi s'il y a des contingents qui sont ailleurs, qu'on peut nous ramener ici, il n'y a pas de problème. Ça nous permettra, n'est-ce pas, d'être partout.
Signalons que les casques bleus de la MONUSCO jouent un rôle important dans la protection des sites des déplacés qui sont sous la menace permanente des groupes armés dans le territoire des Djougou. Bounia, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Ras-le-bol des habitants des quartiers Punda et Bangou dans la commune de Ngaliema. Ils ont organisé ce matin un sit-in en barricadant la voie sur la route de Matadi pour déplorer l'avancée du ravin Bolikango ayant déjà englouti plusieurs maisons. Ils redoutent que cette tête d'érosion coupe en deux cette route reliant le quartier d'Elvo et la commune de Selembao si rien n'est fait dans les jours à venir. Ces habitants lancent un cri d'alarme au gouvernement de la République et surtout au chef de l'État pour qu'il s'implique personnellement en vue de trouver une solution rapide à cette situation qui met beaucoup des vies humaines en danger. Suivez Pascal Chihinda, un notable du quartier Punda, joint par Blaise Chindali.
À son temps avec le président honoraire Joseph Kabila Kabange, lorsque nous avions exprimé notre mécontentement, il était descendu sur terrain et on a eu une solution. La société chinoise était venue construire une distance d'environ 300 mètres. Hélas, comme il n'y avait plus de subventions du gouvernement, la société a plié bagage. Et au fil du temps, l'érosion continuait à ronger, ça continuait à ronger le travail qui a été fait. Fort malheureusement, il y a eu des pertes de vies humaines, il y a eu des maisons effondrées, des parents enfants qui sont ça et là, des familles délaissées ne sachant plus où aller. Ce matin, nous avons pris la résolution de faire un sit-in au niveau de la route pour faire entendre nos voix. Et là, nous faisons allusion au premier citoyen qui il y a dans son jargon, le peuple d'abord. Alors que c'est lui qui est, comme je le disais, notre papa. Et cette route qui est vraiment capitale, cette route devrait en principe relier le quartier d'Elvo et Selembao. Et maintenant, les maisons effondrées, nous avons fait un sit-in pour faire entendre notre voix, pour que le chef de l'État, au travers les ministres des ITPR, qui nous viennent en aide.
Nous poursuivons cette tournée de l'actualité congolaise dans le territoire de Kasangulo, au Congo central. Le député provincial Pichu Kongo dénonce à travers une motion d'information l'érection de plusieurs barrières dans sa circonscription électorale. Dans cette motion d'information introduite à l'issue de la plénière d'hier lundi à l'Assemblée provinciale du Congo central, cet élu du peuple estime que ces barrières constituent un moyen pour des policiers de tracasser la population. Le député provincial Pichu Kongo a demandé à la plénière la suppression pure et simple de ces barrières. L'extrait de son intervention est choisi par Nana Plurich Mambo.
Suite au cri de détresse de la population de Kasangulo par rapport aux différentes barrières placées sur les tronçons Ngili Brasserie Sana, précisément à Yana, à Ngandama Temele, à Kipoum, et les tronçons Fouloulou Banaroujoum, précisément à Fouloulou vers les Tio, Sefongo, et avant les ponts de la rivière Loujoum. Ces barrières sont en train de rançonner la population de Kasangulo. En cas d'absence de la carte d'électeur, il faut débourser 5000 francs congolais. En ma qualité de député provincial de cette circonscription électorale, je propose la suppression immédiate de toutes ces barrières pour permettre à la population de paguer en toute quiétude. Et surtout pendant cette période de fête de Nouvel An.
Pour sa part, la population du territoire de Kasongolunda dans la province du Kwango n'a pas accès à l'eau potable depuis plusieurs années. Ses habitants consomment l'eau de la rivière et des sources non aménagées. La situation est observée au chef-lieu du territoire, mais aussi dans les secteurs. L'administrateur de ce territoire, Arsène Koukankindila, qui le dit, redoute la résurgence de maladies d'origine hydrique. Reportage d'Irène Boma.
Outre les difficultés liées notamment aux infrastructures routières, les territoires de Kasongolunda acquisent aussi des problèmes permanents d'accès à l'eau potable. Cette partie de la province du Kwango ne dispose même pas de sources aménagées, ni tout autre système pouvant desservir la population en eau potable, sauf les quelques forages qui du reste sont insuffisants. Les habitants sont obligés de puiser l'eau des rivières tant pour la consommation que pour tous les autres besoins des ménages. C'est ce qu'a rapporté l'administrateur de ce territoire lors d'un entretien lundi avec Radio Okapi. Arsène Koukangidila plaide auprès des autorités compétentes afin de trouver des solutions idoines à cette situation.
L'eau à Kasongolunda pose un sérieux problème. La population généralement prend l'eau dans les grandes rivières polluées et quelques sources qui sont polluées. Donc il faudrait qu'une solution soit rapidement trouvée. Le fait que la population utilise cette eau souillée pose beaucoup de problèmes, des maladies hydriques, des fièvres typhoïdes que nous avons ici. Donc le besoin en eau, c'est un besoin très pressant, qu'on y trouve des solutions.
Arsène Koukangidila indique que cela fait plusieurs années que Kasongolunda connaît cette carence d'eau potable. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Quelques nouvelles en bref avant de passer à la page internationale de cette édition. La population du Nord Maniema éprouve d'énormes difficultés pour s'approvisionner en médicaments de qualité. Pour ce faire, une tonne de médicaments est remise aux zones de santé de Lubutu et Obokoté par le vice-gouverneur de cette province du Maniema. Katisamba Makubuli fait savoir que ces médicaments sont achetés sur fonds propres du gouvernement provincial. Et puis, en mode justice, le tribunal de paix Kinshasa Ngaliema a condamné hier lundi l'influenceuse Denis Mukendi à 3 ans de prison pour faux bruit, faux en écriture et injure publique à l'égard de l'opposant politique Jacques Ndala et de ses services et des services plutôt des renseignements congolais. Le 4 décembre, le ministère public avait requis 8 ans de prison, mais le juge de paix en a décidé autrement, étant donné que le taux de peine reconnu à un tribunal de paix par la loi ne peut pas dépasser 5 ans. Les avocats de Denis Mukendi promettent de faire appel contre ce jugement qu'ils qualifient d'injuste.
Actualité internationale.
Un tribunal ougandais a rendu un jugement historique en ordonnant au gouvernement d'indemniser les victimes des crimes de guerre commis par Thomas Kouyelo, un commandant de l'armée de résistance du Seigneur LRA. Chaque victime recevra jusqu'à 10 millions de shillings ougandais environ, 2 740 $. Kouyelo, un commandant de niveau intermédiaire de la LRA, a été condamné en octobre à 40 ans de prison pour des crimes graves, notamment le meurtre, viol, réduction en esclavage, la torture et l'enlèvement. Jugé indigent et incapable de verser des réparations, le tribunal a imposé cette responsabilité au gouvernement. Et puis, les nouveaux hommes forts de Damas qui souhaitent se rapprocher de la communauté internationale appellent les troupes russes à quitter le pays. La Russie n'est plus la bienvenue sur le sol syrien. Par la voix de son porte-parole, le nouveau gouvernement de transition a fait savoir que la présence des troupes russes en Syrie n'avait plus de raison d'être avec la chute du gouvernement de Bachar al-Assad. Obeida Aranaout a appelé la Russie à reconsidérer sa présence en Syrie et à établir des contacts avec les nouvelles autorités syriennes.
L'invité.
Le Fonds de solidarité de santé FSS sera bientôt installé au Kassai Oriental pour mobiliser les financements dans le cadre de la couverture santé universelle. À cet effet, une délégation du FSS séjourne en Bujimaï depuis quelques jours pour lancer le programme de maternité gratuite. Yolande Compagnie, coordonnatrice provinciale du FSS, s'entretient avec Esther Dalafina.
Bonjour Madame Yolande Compagnie, où en êtes-vous avec l'installation du Fonds de solidarité de santé au Kassai Oriental?
En réalité, nous venons installer le fonds, mais nous voulons lancer un programme du fonds, notamment le programme afférent à la maternité gratuite, qui est effectif depuis une année sur Kinshasa, 3 mois au Bas-Congo, et nous voulons lancer le même programme ici au Kassai Oriental.
Depuis que vous êtes là, vous avez effectué quelques missions dans les territoires. Quoi consistent vos missions de terrain?
En réalité, nos missions dans les territoires consistaient à conventionner avec toutes les structures accréditées par l'ARCSU, qui est l'autorité de régulation et de contrôle de la couverture santé universelle. Cette liste, elle nous a été transmise et au regard de toutes les informations et renseignées, ça nous a permis de descendre sur le terrain, par axe bien sûr. Nous sommes allés à Kabeakamwanga le dimanche. Nous avons recensé 16 structures accréditées. Cela nous a permis de conventionner avec ces structures. On a fait la même chose à Chilingue, à Miabi ainsi qu'à Mbujimaï.
Quel est l'avantage de ces fonds de solidarité de santé?
La couverture santé universelle concerne tous ceux qui habitent le sol congolais. Et dans la couverture santé universelle, il y a plusieurs bras. On appelle ces bras les établissements de facilitation. Nous en avons plusieurs. Je peux en citer quelques-uns déjà. Il y a le fonds de promotion santé, il y a l'ARCSU, il y a ANICENES, il y a COREP, il y a aussi le fonds de solidarité santé. Le fonds de solidarité santé a pour mission la collecte des cotisations, la gestion de ces cotisations, ainsi que le paiement des prestations. Donc, je pense, si tout va très bien, le premier trimestre de 2025, nous allons débuter avec l'assurance maladie obligatoire.
Et jusque là, combien de structures sont viables, d'après vous?
Je ne veux pas trop utiliser l'expression viable. Je veux plutôt utiliser l'expression accréditée. Il y a 269 structures accréditées sur le Kassai Oriental. Parti à Kabeakamwanga, à Miabi, à Chilingue. Mais c'est vrai que ce ne sont que des axes. Parce que lorsque nous allons à Miabi, nous avons recensé Chilundu. Nous avons recensé Miabi aussi. Lorsque nous allons à Chilingue, nous avons recensé Kassonsa. C'est un peu comme un regroupement de plusieurs zones de santé autour de la zone de santé de Chilingue.
Et les bénéficiaires de ces fonds de solidarité de santé, comment seront-ils informés par rapport aux structures qui sont accréditées pour se rendre vraiment dans les structures accréditées?
Effectivement, nous allons passer par la voie des médias pour pouvoir communiquer avec la population parce que dès le moment où la gratuité est lancée, nous allons utiliser fortement les médias pour atteindre les territoires, les villages et certains secteurs.
Oui, nous avons appris déjà à Kinshasa, là où on a lancé ce programme, il y a eu quelques plaintes des femmes qui vont là-bas mais qui ne sont pas bien prises en charge parce que les prestataires de santé qui pensaient recevoir quelque chose comme par le passé ne reçoivent plus rien. Ici, comment se fera les suivis?
Il est vrai qu'à chaque fois qu'on parle réforme, il y a des avantages et des désavantages. La réforme, elle n'est pas forcément acceptée par la population, moins encore par les prestataires. À Kinshasa, tout n'est pas parfait, mais j'aurais souhaité qu'on puisse le dire en termes de proportion. S'il y a eu une infime proportion des prestataires qui disent que la réforme n'est pas bonne, là, je ne suis pas d'accord. Mais par contre, quel est le taux de satisfaction des femmes au regard de ce programme. Je pense qu'on devrait s'y pencher. Nous avons pris l'expérience de Kinshasa, l'expérience du Bas-Congo. On va devoir réfléchir sur les mécanismes pour éviter de retomber dans les mêmes problèmes ici au Kassai-Oriental.
Et aussi par rapport aux prestataires de santé, quel mécanisme allez-vous utiliser pour qu'ils soient payés au moment opportun?
En tout cas, pour le paiement, ça ne pose pas de problème. Pendant qu'on faisait notre tournée, on leur a dit, on ne payera pas de main à main. Les Maboko Bank, nous, on ne peut le faire. Ces structures sont obligées d'ouvrir des comptes. Nous avons pris une banque partenaire qui va nous accompagner, c'est la TMB. Au travers de leurs comptes, chaque fin du mois, ils doivent nous déposer des factures. Nous faisons une vérification, une validation des prestations. À la fin de la vérification, il y a un PV qui est établi. C'est au regard des éléments cristallisés sur le PV qu'on peut dire que votre facture sera payée. Ils doivent respecter la date de dépôt des factures. Parce que la date limite, c'est le 5. Si vous nous emmenez le 20, c'est qui est sûr que vous aurez un glissement. Tant que vous respectez la date à laquelle vous êtes soumis à déposer la facture, nous nous prenons simplement 10 jours pour la validation. Au bout de 10 jours, vous avez l'argent.
Madame Yolande Compagnie, je vous remercie.
Merci à vous aussi.
Voilà qui met un terme à cette édition de Journal sur Radio Okapi. Nous vous disons sincèrement merci de l'avoir écoutée.